France Culture.
Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête sur le meurtre d'un Tunisien dans le Var. Avant et après son passage à l'acte, le suspect avait diffusé des vidéos au contenu raciste et haineux. Après les explications de Margot Steve, nous entendrons l'appel de la Maison des Potes à se dresser collectivement contre ces crimes. Nouvel échec des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul. Nous joindrons notre correspondante Marie-Pierre Véro. Il y a tout de même eu un accord sur un échange de prisonniers. Nous nous intéresserons au profil du nouveau président polonais. Le nationaliste Karol Nawrocki revendique sa proximité avec son homologue américain Donald Trump. Et puis Thibault Lefèvre nous fera écouter des témoignages sur les tirs qui ont fait plus de 30 morts hier à Gaza, près d'un centre d'aide humanitaire. Le chef de l'ONU réclame une enquête. Le parquet national antiterroriste se saisit de l'enquête sur le meurtre d'un homme de nationalité tunisienne à Pugey-sur-Argens dans le Var. Un Français de 53 ans, voisin de la victime, est accusé de l'avoir tué et d'avoir blessé un autre homme de nationalité turque. Il a également posté des vidéos à caractère raciste et c'est notamment cela, Margot Steve, qui justifie cette saisine du parquet national antiterroriste.
Oui, deux vidéos postées sur les réseaux sociaux par le suspect avant et après son passage à l'acte et dont le caractère raciste ne fait aucun doute selon le ministre de l'Intérieur. Jusqu'ici dirigé par le procureur de Draguignan, l'enquête est donc désormais entre les mains du parquet antiterroriste. Une enquête ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat terroriste en lien avec la race, l'ethnie, la nation ou la religion, mais aussi pour association de malfaiteurs terroristes. Pour l'instant, un seul suspect a été interpellé, un homme de 53 ans, alcoolisé au moment des faits et inconnu des services de renseignement. Un amateur de tir sportif qui avait pris la fuite en voiture après son passage à l'acte. Il a fini par se rendre quelques heures plus tard acculé par le GIGN. Dans son véhicule, les gendarmes ont retrouvé plusieurs armes dont un fusil à pompe et un pistolet automatique. Les enquêteurs cherchent désormais à savoir s'il a agi seul ou si son geste s'inscrit dans un projet plus large avec de possibles complices.
Le racisme doit être sévèrement puni quand il conduit à cette sauvagerie. La réponse pénale doit être implacable, réagit sur le réseau X le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. L'association SOS Racisme dénonce-t-elle un climat empoisonné, la banalisation des discours racistes et des signaux institutionnels inquiétants. Le président de la Fédération de la Maison des Potes, autre association antiraciste, appelle lui à s'indigner massivement. Écoutez Samuel Thomas.
On est dans une période un peu, on va dire, d'embrasement à caractère raciste. On a eu le dernier crime de Grande-Combe, juste avant celui de Dunkerque, maintenant celui-là. Il y a des passages à l'acte de la part de groupuscules d'extrême droite de plus en plus fréquents. Et donc, c'est terrifiant. Et ça implique de mesurer la dangerosité de l'idéologie raciste dans le pays, d'autant plus qu'elle est accompagnée donc de passages à l'acte avec des armes à feu. Il faut absolument pas s'habituer à ce genre de fait, parce que si la France s'habitue, ces criminels ont gagné. Ils gagnent si on n'est pas capable de se dresser collectivement, farouchement, fortement contre ces crimes. C'est bien d'une mobilisation nationale dont on a besoin. On a besoin de montrer aux populations étrangères qui sont visées par ces attaques racistes, aux populations musulmanes qui sont visées, ou aux populations juives quand ce sont elles qui sont visées, on a besoin de leur montrer que c'est la cohésion nationale qui est en jeu, que c'est l'unité nationale qui est en jeu et qu'on ne les laisse pas dans leur souffrance. Seul à essayer de se dresser contre cette haine. Et cette haine, elle ne peut être endiguée que par la mobilisation collective.
Samuel Thomas de la Maison des Potes, joint par Rosalie Lafarge. Soupçonné d'avoir aspergé de peinture verte le mémorial de la Shoah, trois synagogues et un restaurant juif à Paris dans la nuit de vendredi à samedi, trois ressortissants étrangers ont été interpellés aujourd'hui. Selon une source proche du dossier, ils étaient en train de quitter le pays au moment de leur arrestation, ce qui rappelle les mains rouges taguées sur le mur des Justes au mémorial de la Shoah en mai 2024. L'enquête est conduite par la Sûreté territoriale pour dégradation commise en raison de la religion. L'Assemblée vote à l'unanimité l'élévation d'Alfred Dreyfus au grade de général de brigade. Le vote de cette proposition de loi de Gabriel Attal est présenté comme un acte de réparation visant à parachever la réhabilitation d'Alfred Dreyfus 130 ans après sa condamnation pour trahison sur la base de fausses accusations alimentées par l'antisémitisme. Le rapporteur Charles Zitzenstuhl, député Renaissance, salue un vote qui, selon lui, restera dans l'histoire et il appelle les sénateurs à se saisir rapidement du texte. Et puis si vous souhaitez vous replonger dans cette affaire, je vous recommande la série historique Alfred Dreyfus, le combat de la République de Philippe Collin, accessible via l'appli Radio France. Les sénateurs commencent l'examen de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile dite ultra fast fashion et particulièrement visé le chinois Shein, spécialiste de la mode éphémère à prix cassé. La ministre de la transition écologique Agnès Pannier-Runacher s'est ce matin rendue à Oullins, près de Lyon. Avec sa collègue au commerce, PME et artisanat, elle a visité le laboratoire des douanes et de la répression des fraudes et les surprises que les examens effectués réservent aux consommateurs. Le reportage de Christophe Vincent.
Engrais, colle forte, lunettes de soleil, toutes les marchandises suspectes sont confiées à l'examen microscopique des techniciens du labo, notamment des textiles bon marché en provenance d'Asie. Louis Simanski est responsable de l'unité scientifique.
On vous donne de la laine classique et puis on vous dit que c'est du cachemire ou on vous dit que c'est de l'alpaga. L'alpaga, c'est une chèvre, ça coûte très cher. On nous annonce 15% d'alpaga, il y en a 3 ou 4%. On a aussi la viscose ou le polyester qui peuvent se faire passer pour de la soie. C'est souvent la fibre noble qui permet de vendre le produit très cher. On s'aperçoit qu'on a de la fibre synthétique à la place.
Le textile est le secteur le plus polluant au monde, a rappelé Agnès Pannier-Runacher. La ministre a souligné l'aspect protecteur de cette loi.
Ce sont des produits qui se présentent souvent comme accessibles au plus grand nombre, mais qui en réalité pèsent sur le portefeuille puisqu'ils poussent à l'achat de produits qu'on peut à peine porter parce qu'ils s'abîment très très vite. Et c'est ce coût caché que nous voulons dénoncer, coût caché pour l'environnement, coût caché pour les entreprises et les emplois, mais aussi coût caché pour les consommateurs et qui impacte grandement le pouvoir d'achat des Françaises et des Français.
Les Français achètent 40% de plus de vêtements qu'il y a 15 ans. Ils représentent 22% du 1,5 milliard de colis qui arrivent chaque année.
Christophe Vincent, la proposition de loi portée par la députée Horizon Anne-Cécile Violent pour freiner la fast fashion sera soumise à un vote solennel des sénateurs mardi 10 juin. La plateforme d'inscription post-bac Parcoursup s'apprête à livrer ses premiers résultats à 19h. 980 000 candidats ont déposé leurs vœux et guettent avec anxiété les propositions d'affectation. La phase d'admission principale qui débute aujourd'hui s'achèvera le 10 juillet. L'an dernier, 94% des lycéens inscrits sur Parcoursup ont reçu au moins une proposition d'admission. Mais face au stress généré par la plateforme, de plus en plus de familles optent pour des établissements privés pour être sûrs d'avoir une affectation à la rentrée. Il arrive pourtant aux étudiants de déchanter car ces établissements ne respectent pas toujours leurs engagements. On le constate notamment dans des formations en apprentissage dans des filières comme la communication et le numérique. Alors pour limiter ces risques, Hakim Kasmi, le ministère va mettre en place de nouveaux dispositifs comme des agréments.
Demande d'acompte, maquette pédagogique inadaptée, manque de professeurs, diplôme ne permettant pas de pouvoir poursuivre des études à l'université par exemple, autant de difficultés auxquelles sont confrontés ces étudiants du privé. Alors, pour y remédier, dans l'urgence, le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, a mis en place un texte qui autorise la mise en demeure de ces établissements, mais il prévoit aussi la mise en place d'un agrément en 2027, comme l'explique Jérôme Teillard, chef du projet Parcoursup.
Le ministre Philippe Baptiste a annoncé pour 2027 un nouveau label, un agrément pour faire de Parcoursup une zone complète de confiance et encore améliorer la lisibilité pour les familles. C'est évidemment notre préoccupation que les formations puissent librement proposer des formations aux candidats, mais des formations de qualité dans lesquelles les candidats vont pouvoir se retrouver et ensuite poursuivre leurs études.
Mais pour que le dispositif soit prêt dans les temps, il faudra d'ici là des moyens humains supplémentaires, estime Ariane Ferry, la directrice du journal L'Étudiant.
Là où ça va être plus compliqué, c'est peut-être pour les formations spécialisées, des formations de BTS privées, etc., où là, elles sont très nombreuses. Et il va bien falloir trouver les ressources pour aller les auditer et leur accorder ou non cet agrément. On avait évoqué aussi la possibilité que les rectorats s'occupent de formations dites plus de proximité, comme des BTS ou des formations spécialisées sur leur territoire. Là aussi, on a des experts de l'éducation qui sont en mesure d'auditer. Mais ça n'a pas été confirmé à date si cette proposition était reprise.
Désormais, le nombre d'étudiants scolarisés dans le privé représente 26%, un chiffre qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années.
Hakim Kasmi. Un vol surprenant ce matin au musée Grévin à Paris. Se faisant passer pour des employés du musée, deux femmes et un homme ont emporté la statue de cire d'Emmanuel Macron et ont pu s'enfuir par une sortie de secours. Greenpeace revendique ce geste. L'ONG explique avoir emprunté la statue et l'avoir déposée devant l'ambassade de Russie pour dénoncer les transactions actuelles entre Paris et Moscou concernant notamment le gaz, le nucléaire et les engrais chimiques. Greenpeace qui se plaint, par ailleurs, de ne pas pouvoir participer à la parade maritime inaugurale de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, prévue dimanche à Nice. L'organisation y avait pourtant été officiellement invitée, mais l'organisateur de cette parade maritime lui reproche une action menée le 21 mai dans le parc marin du Golfe du Lion. François Chartier, chargé de campagne océan de Greenpeace, réagit au micro de Véronique Reberotte.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé une quinzaine de blocs de calcaire à l'intérieur de l'aire marine protégée du Golfe du Lion, en Languedoc-Roussillon, dans une zone qui est chalutée par des chalutiers, donc qui font ce qu'on appelle le chalutage de fond. Donc là, c'est une technique où on racle le sol. Donc l'idée sur ce périmètre spécifique, c'est d'empêcher cette activité. On est sur une action très symbolique, hein. On est sur une protection effective, mais de 1 km². Donc c'est plutôt avant tout une manière d'interpeller le gouvernement. Les seules activités qui en sont impactées, c'est évidemment ce chalutage de fond et en rien la pêche artisanale. Et pour nous, c'est une manière de rappeler que la France est en contradiction avec toutes les recommandations internationales, et notamment les recommandations de la Commission européenne, qui appellent à l'interdiction du chalutage de fond dans toutes les aires marines protégées. C'est donc la crédibilité de la France cette semaine à Nice qui est en question.
Le fait que votre bateau, l'Arctic Sunrise, soit aujourd'hui interdit de parade, c'est vraiment une mesure de rétorsion par rapport à cette action.
C'est comme ça qu'on comprend et qu'ils demandent même une zone d'exclusion pour notre navire de 12 000 nautiques de 25 km autour de Nice sous la surveillance de la gendarmerie maritime. Ce qu'on peut dire, c'est finalement, est-ce que le gouvernement n'est pas en train de se tromper d'adversaire ? C'est une mesure purement de représailles politiques. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Et ça nous atteint fortement et c'est une drôle d'image que donne la France de sa relation avec la société civile. Et l'Arctic Sunrise, c'est un navire qui s'est battu pour la protection des océans, contre les énergies fossiles, qui a participé à des missions scientifiques. Donc on trouve ça quand même déplorable.
François Chartier de Greenpeace France. Un tiers de l'électricité consommée en France en 2024 était d'origine renouvelable, selon le panorama de l'électricité renouvelable publié aujourd'hui. Cette forte hausse, qui correspond donc à un record, est très largement portée par l'augmentation constante de la production d'électricité renouvelable à partir d'énergie solaire, plus 10%, et une forte augmentation également de la production hydraulique, plus 27%. Ils ont duré à peine plus d'une heure. Les pourparlers directs entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul n'auront pas permis d'avancer beaucoup. Alors il y a bien eu un nouvel accord sur des échanges de prisonniers, mais aucun signe précurseur d'une cessation des hostilités. Marie-Pierre Véraud, vous êtes notre correspondante à Istanbul. Visiblement aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose à négocier.
Les deux camps sont en effet bloqués sur des positions irréconciliables. Moscou exige l'abandon des provinces conquises ou occupées par ses troupes en Ukraine, le renoncement à l'OTAN, quand pour Kiev il s'agit de retrouver l'intégrité territoriale et d'obtenir une protection internationale pour prévenir toute nouvelle invasion. En fait, la partie russe est d'abord venue ici pour remettre à la délégation ukrainienne son mémorandum précisant les termes d'un accord pour mettre fin à la guerre. Kiev avait déjà adressé ses propres propositions au Kremlin, mais n'avait pas reçu de documents en retour. C'est donc chose faite. Les délégations n'ont abordé, comme la fois précédente, que des questions humanitaires. L'Ukraine demande le rapatriement de plusieurs centaines d'enfants, déportés, dit-elle, en Russie. Le seul résultat aujourd'hui à Istanbul, une fois de plus, c'est un accord sur les prisonniers. Libération de tous les prisonniers de guerre, grièvement blessés et gravement malades, ou âgés de moins de 25 ans. Les deux parties ont aussi décidé d'échanger les corps de 6000 soldats tués dans chaque camp. Ce pourrait être dès la semaine prochaine. Mais la Russie campe sur son refus d'un cessez-le-feu inconditionnel ou d'une rencontre entre présidents. Elle aurait proposé un cessez-le-feu partiel de 2 ou 3 jours sur certaines parties du front. On est donc loin du compte. L'Ukraine, en tout cas, veut maintenir le fil même ténu de ces échanges et a proposé une nouvelle rencontre à la fin du mois pour faire avancer ce processus de négociation. Mais on le voit bien, comme on pouvait le redouter, la paix ou même un cessez-le-feu reste à l'état de chimère.
Marie-Pierre Véraud à Istanbul. Recep Tayyip Erdogan propose de nouveau réunir en sommet les présidents russes Vladimir Poutine, ukrainien Volodymyr Zelensky et américain Donald Trump à Istanbul ou Ankara. Le chef de l'État turc juge qu'avoir tenu la réunion est déjà un succès en soi après les événements d'hier. Allusion notamment à l'audacieuse attaque de drones lancée par Kiev contre des aérodromes militaires en territoire russe. Cette opération avait pour nom de code Toile d'araignée. Après des mois de préparation, Eric Biegala, les services de sécurité ukrainiens ont mené une opération coordonnée sans précédent contre l'aviation militaire russe, frappant à des milliers de kilomètres du front.
Oui, c'est une opération de guerre clandestine majeure qu'ont mené les services spéciaux ukrainiens. Il leur a d'abord fallu importer dans le plus grand secret, en Russie et très loin dans la profondeur du territoire russe jusqu'en Sibérie, des dizaines de drones armés, probablement les monter sur place, programmer leur vol, les dissimuler dans des conteneurs, eux-mêmes montés sur des poids lourds civils pourvus chacun d'un toit ouvrant pour lancer ses armes dès que les camions se trouvaient à proximité immédiate des 4 ou 5 bases aériennes visées. Pourquoi à proximité ? Pour qu'une fois ces drones largués depuis les camions, il n'est que quelques centaines de mètres à parcourir avant de frapper leur cible, histoire que les radars et les défenses antiaériennes russes n'aient pas le temps de réagir. La tactique a été bien réfléchie et l'opération déclenchée de façon quasi simultanée sur les différentes bases. La surprise a été totale. Le résultat, difficile à dire pour le moment, on ne dispose pas d'images confirmant le nombre ou la nature des appareils russes endommagés ou détruits. Une quarantaine, assurent les Ukrainiens, et pas n'importe lesquels, des bombardiers stratégiques à long rayon d'action, capable de tirer des missiles longue portée, y compris des armes nucléaires. Selon le président Volodymyr Zelensky, ce serait près d'un tiers de la force stratégique aérienne russe qui aurait été touchée. Et le pire pour les Russes, c'est que la plupart de ces avions ne pourront pas être remplacés facilement. Datant de l'époque soviétique, ils ne sont tout simplement plus produits.
Eric Biegala, Emmanuel Macron appelle Carole Navrocki à continuer de bâtir une Europe respectueuse de l'état de droit. Message teinté d'inquiétude du président français après l'élection du président polonais hier. Le candidat nationaliste s'est imposé face au pro-européen Rafał Trzaskowski. Une élection qui devrait notamment renforcer la relation Pologne-États-Unis. On retrouve notre correspondant Sébastien Paour à Washington.
Parce que Carole Navrocki a les faveurs de Washington. L'historien candidat a même été reçu par Trump dans le bureau ovale il y a un mois, signe d'un soutien clair de la part du président américain. Soutien renouvelé la semaine dernière à l'occasion de la première réunion en Pologne de la CIPAC, la Conférence d'Action Politique Conservatrice, un groupe de défense des droits conservateurs basé aux États-Unis et implanté en Europe. La secrétaire américaine à la sécurité intérieure, Kristyn Noem, avait fait le déplacement et elle a commencé son discours en disant que Navrocki devait être le prochain président de la Pologne. Il faut dire que la rhétorique du nouveau président polonais se calque beaucoup sur celle de Trump. Il ne soutient pas l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, remet en question les coûts à long terme de l'aide occidentale à Kiev et reproche au président ukrainien de ne pas être suffisamment reconnaissant envers Varsovie pour son aide. 10 000 soldats américains sont stationnés en Pologne et la majorité des Polonais estiment qu'une bonne relation avec Trump est une garantie de sécurité pour leur pays.
La justice allemande sanctionne le tour de vis migratoire du nouveau chancelier conservateur Friedrich Merz. Elle juge illégale sa politique de refoulement aux frontières des demandeurs d'asile, déjà contestée par les pays voisins. Les personnes qui demandent l'asile lors d'un contrôle aux frontières sur le territoire allemand ne peuvent être refoulées, explique le tribunal administratif de Berlin, sans que la procédure européenne de Dublin ait été appliquée afin de déterminer l'État membre responsable de l'examen de leur demande d'asile. À Gaza, des frappes israéliennes ont fait ces dernières 24 heures 51 morts et quelques 500 blessés. Les bombardements sont quotidiens et des Palestiniens affamés meurent même à proximité des centres de distribution d'aide de la Gaza Humanitarian Foundation, pilotée par des Israéliens et les Américains. À Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé de Gaza lié au Hamas, il y a eu hier matin 31 morts et 176 blessés dans un terrible chaos. Écoutez le récit de notre correspondant à Gaza, Rami Al-Magari, avec Thibault Lefebvre à Jérusalem.
On voulait du pain, on a eu du sang. Les paroles terribles de Bara au micro de Rami Al-Magari. Ce père de famille cherchait de la nourriture, mais avant d'avoir atteint le point de distribution, il a été emporté par une foule prise de panique.
Les Israéliens tiraient dans tous les sens, avec leurs drones, avec les mitrailleuses de leurs chars. Il y a eu des morts et personne ne s'est arrêté pour les ramasser. Chacun pour soi, les gens sont affamés et veulent nourrir leurs femmes et leurs enfants. On est 2 millions de personnes et on se bat pour quelques sacs de farine.
L'armée israélienne nie être à l'origine des tirs. La Fondation humanitaire de Gaza évoque de fausses informations alimentées par le Hamas. Annie, lui, a vu des corps criblés de balles.
Parmi les morts, il y avait aussi bien des hommes que des femmes. Nous avons ramassé les cadavres et nous les avons emmenés jusqu'à l'hôpital de la Croix-Rouge. On était au milieu d'une marée humaine. J'ai dû ramasser plus d'une vingtaine de dépouilles à moi tout seul.
Un dernier témoin, Yahya, est très en colère. Il n'en peut plus, dit-il, de vivre comme un animal, de se sentir humilié par les Israéliens. Et il conclut, et désormais, ça ne suffit pas. Plus de se faire tuer. Avant de mourir, il nous oblige à mendier.
Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réclame une enquête indépendante sur cet événement tragique. Le temps sera encore orageux demain, du sud-ouest jusqu'à l'Alsace-Lorraine et au nord de Rhône-Alpes. Et une nouvelle perturbation arrivera par la Bretagne. Mais les éclaircies domineront ailleurs. Les températures minimales iront de 7 degrés près de la Manche à 19 en bord de Méditerranée. L'après-midi, il fera le plus souvent entre 20 et 25 degrés.